Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va même très bien, parce que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. En fait, faut se dire que là, le temps de carême est fini, et j'en parlais la dernière fois avec une pote, et j'étais très en mode, le temps de carême est fini maintenant, et maintenant on fait quoi en fait? Parce que pendant le carême, bon, c'était très, enfin les directives, c'était assez clair. Hein. Il fallait faire des efforts, il fallait jeûner, il fallait faire des choses qui nous coûtent pour préparer, pour se concentrer en fait sur les choses spirituelles et pas sur le monde, pour se concentrer sur la venue de Jésus, pour se concentrer en fait sur notre préparation au mystère de notre foi. Parce que, comme vous l'avez sans doute compris maintenant, s'il n'y avait pas eu de Pâques, si Jésus n'était pas mort et ressuscité pour nous, bah, comment dire? Il n'y aurait pas de chrétiens. C'est vraiment tout le mystère, et c'est vraiment un mystère, donc tout le mystère de notre foi, tout ce autour de quoi en fait l'Église tourne. Et l'Église avec grand E, hein, c'est-à-dire si vous êtes chrétien, c'est ce autour de quoi votre mystère tourne. Et maintenant en fait que Jésus est mort et ressuscité, que c'est fini, c'est acté, en très grosses griffes, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en général, enfin après le carême, pendant le carême, les gens font beaucoup d'efforts, ils ont réussi plus ou moins à tenir jusqu'à la fin. Donc ça fait qu'au final, quand la Pâque est arrivée, il y a un peu ce relâchement général, on reprend ce qu'on avait l'habitude de faire. Bon, ceux qui, comment dire ça, les plus résistants, qui ont réussi à tenir vraiment pendant les 40 jours, leur habitude des 40 jours, elle est vraiment devenue comme une seconde nature. Donc eux, ils n'ont pas d'effort à faire pour continuer en fait de faire ce qu'ils faisaient déjà pendant le carême. Mais pour toutes les autres personnes pour qui c'était plus ou moins difficile, quand le carême est fini, bah, on va dire les efforts sont finis. Et du coup, ça pose un peu la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment garder ses bonnes habitudes, sachant que bon, quand t'es pendant le carême, ta motivation c'est de se dire que oui, il y a la Pâque qui arrive, mais quand t'es hors du carême, t'as peut-être pas une aussi grande motivation. Alors qu'en fait, jeûner, prier, aimer, partager, donner à ceux qui n'en ont moins, à ceux qui en ont moins ou à ceux qui n'en ont pas, c'est des choses qui sont valables toute la vie. C'est pas seulement pendant le carême. Et d'autant plus que là, l'Église est tellement bien organisée que la Pâque, c'est 40 jours après le mercredi des cendres, mais la Pentecôte, c'est 40 jours après la Pâque. Enfin, 40 jours ou 50 jours, mais ce qui est sûr, à 10 jours près, le message que j'ai à vous faire passer est vraiment le même. Donc, avant que j'explique concrètement qu'est-ce que la Pentecôte, je vais vous parler du Saint-Esprit. Peut-être pas en profondeur pour l'épisode du jour, comme ça on aura encore d'autres choses à dire pour les prochains épisodes, mais je vais essayer de faire une petite généralité assez simple pour que ce soit super accessible à tout le monde. Faut savoir que Jésus, en fait, avant de partir, parce que Jésus il est ressuscité, il est revenu, mais après il est reparti, c'est l'ascension, etc. Donc Jésus, avant de partir, il va parler plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, du Saint-Esprit à ses disciples. Donc surtout dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile selon Jean, Jean le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, hein, mais c'est comme ça que Jean s'est écrit lui-même dans ses évangiles. Donc voici quelques passages clés et ce qu'ils signifient. Donc d'abord, on a 1 Jean 14, les versets 16 à 17. Jésus dit: Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc, comme on le sait déjà, Jésus lui-même est la vérité. Il y a un ou deux versets qui parlent de ça. Bon, on n'est pas forcément là pour retrousser dessus aujourd'hui. Mais voilà, l'Esprit de vérité, enfin la Sainte Trinité, là je vais vraiment parler selon les catholiques, mais c'est l'idée que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, c'est trois entités qui constituent la même personne. Entre très grosses griffes, parce que Dieu n'est pas une personne. Mais c'est un peu comme toi. Toi, Madame Charlotte, tu es une humaine, tu es corps, âme et esprit, mais c'est toujours Madame Charlotte. Il y a ces trois parties-là de toi qui font partie de toi et qui font que je suis toi. Si on enlève ton âme de ton corps, c'est plus pareil. Ce n'est plus toi. Si on enlève ton corps autour de ton âme et de ton esprit, ce n'est plus toi. Donc c'est un peu cette idée-là, même si la Sainte Trinité c'est quand même plus complexe, mais globalement c'est vraiment ça. Et donc, pour revenir à 1 Jean 14, Jésus promet un autre consolateur. Donc en grec, ce terme de autre consolateur, c'est le paraclet, qui peut être aussi traduit par défenseur, avocat, aide. Donc Jésus, il nous promet qu'il va prier et que on va recevoir un défenseur, un avocat, une aide, un consolateur pour nous. Il dit clairement que cet esprit va rester éternellement avec nous, avec les apôtres, contrairement à lui qui retourne vers le Père et qui du coup reste avec nous autrement. C'est-à-dire physiquement, il ne sera plus là, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus avec nous, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le prier, lui demander des choses, etc. L'autre verset où Jésus parle du Saint-Esprit, c'est toujours dans Jean, donc 14, verset 26. Jésus dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, comme vous voyez peut-être la différence, dans le premier verset qu'on a lu, Jésus dit, le Père vous donnera un autre Consolateur. Mais là, dans ce verset 26, Jésus dit clairement que le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Que c'est l'Esprit Saint et qu'il nous enseignera toutes choses. Donc, ici, on voit que l'Esprit Saint, il va continuer l'œuvre de Jésus. C'est une. J'ai pas le terme exact, mais c'est un peu l'idée de la prolongation, de la continuité de l'œuvre de Jésus qui finalement ne s'arrête jamais, puisque l'Esprit Saint, il demeure éternellement avec nous. Donc l'Esprit Saint, c'est cet esprit, c'est ce défenseur, c'est ce paraclet qui vient enseigner, rappeler, approfondir la compréhension des paroles de Jésus, de la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc, il ne vient pas pour remplacer Jésus, mais pour rendre sa présence vivante en chacun. Ça, c'est quand même assez important de comprendre ça. Le verset suivant, c'est Jean 16, le verset 7, où Jésus dit, Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est quand même assez fort. C'est quand même très fort. Parce que Jésus, il dit quoi? Il dit que son départ est nécessaire pour que les disciples reçoivent quelque chose d'encore plus profond, quelque chose d'encore, une chose inédite en fait, qu'ils ne pourraient pas recevoir si Jésus était toujours là, physiquement, avec eux. Et donc, d'une certaine façon, Jésus sous-entend, en tout cas moi dans ma compréhension, Jésus sous-entend que la présence de l'Esprit est plus intime que la présence physique de Jésus. Parce que, d'une certaine façon, la présence de l'Esprit permet d'entrer dans une autre dimension de prière, de spiritualité, de compréhension de la parole de Dieu, de relation avec Dieu lui-même et la Sainte Trinité. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de noter ça, surtout que, en fonction, enfin, vous savez, les chrétiens, c'est une grande famille. Il y a plusieurs petites familles dedans. Donc, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, etc. Il y a plusieurs petites branches. Et on va dire, chacune a sa conception du Saint-Esprit, avec certaines qui le mettent beaucoup plus en avant, ou même, par exemple, dans la grande famille des catholiques, il y a encore plusieurs petites branches il y a les jésuites, il y a les ceux qui sont plus Mario, il y a les catholiques Mario, pluriel de catholique Marial. Il y a les charismatiques et les chrétiens catholiques charismatiques, ainsi que les évangéliques ou les protestants, c'est vraiment des branches du christianisme qui mettent vraiment, vraiment, vraiment en avant cette relation avec l'Esprit Saint, qui est souvent une sorte de personnage un peu lointain, parce que on a un peu du mal à le saisir, à comprendre ce qu'il représente, qui il est, pourquoi il est là, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une relation avec lui, etc. Et je trouve que en fait ces versets sont tellement clairs et tellement faciles à comprendre. On va donc passer au verset suivant. Le verset suivant qui n'est plus dans Jean, mais plutôt dans Actes. Donc c'est Actes chapitre 1, verset 8. Donc ça se passe, si je dois faire une petite contextualisation, juste avant l'ascension. Donc Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est un verset que beaucoup de personnes connaissent parce que c'est vraiment l'appel à l'évangélisation. Et en fait, Jésus, ici, il parle de puissance, mais dans la version grecque, parce que la plupart des évangiles ont été écrits en grec, enfin grec, hébreu, enfin bref. Donc dans la version grecque, ce terme puissance, il est traduit par... Enfin, puissance est la traduction de dynamis. Donc dans la version grecque, au lieu de puissance, c'est le terme dynamis. Et c'est pas du coup, en fait, dans la définition de dynamis, c'est cette idée que c'est pas une puissance écrasante, mais c'est vraiment une force intérieure, une force spirituelle, une force transformative, une force vraiment qui transforme, en fait. Et donc l'esprit n'est pas seulement pour sentir quelque chose de nouveau en nous, mais il est totalement lié à une mission. Donc là, si je dois résumer cette partie, je dirais que Jésus prépare ses disciples à une transition, parce que c'est-à-dire que Jésus a jugé nécessaire de les préparer à cette transition, de leur expliquer qui était l'Esprit, ce qu'il allait venir faire et pourquoi est-ce qu'il serait là. C'est pour ça que je pense qu'en tant que chrétien, c'est important de comprendre qui est l'Esprit, ce qu'il vient faire et pourquoi est-ce qu'il sera là. Parce que si c'était quelque chose d'hyper intuitif, hyper logique, je pense pas que Jésus aurait pris la peine de dire ces quelques mots sur le Saint-Esprit. Et en fait, cette transition, du coup, si je peux dire, de Jésus au Saint-Esprit, c'est un peu une transition de la présence visible à la présence invisible, mais intérieure. Donc une présence active et vivante, et l'esprit qui devient le lien entre lui et nous, qui devient lui en nous d'une autre façon. Et c'est vraiment le souffle de l'esprit qui permet de croire, de comprendre, d'agir et d'aimer comme Dieu, comme Jésus. Donc ça, je pense que oui, c'est assez, vous me direz, en tout cas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais du coup, maintenant qu'on a un peu mieux compris qu'est-ce que l'Esprit Saint, on va parler de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, dans la tradition chrétienne, c'est la fête en fait qui célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, 50 jours après Pâques. Elle marque symboliquement la naissance de l'Église, non pas comme une institution, mais comme une communauté de croyants qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Pentecôte? Donc étymologiquement, Pentecôte, ça vient du grec pentecoste, qui signifie cinquantième. Dans la Bible, donc Actes chapitre 2, les disciples sont réunis dans une maison avec la Vierge Marie. Un vent puissant va souffler, des langues de feu apparaissent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est assez spectaculaire tout ça. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Je crois chacun dans leur dialecte, quelque chose comme ça. Donc ils vont se mettre à parler en d'autres langues et à témoigner de Jésus avec une audace nouvelle. Ils vont parler pour la plupart dans des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Et ça, ce phénomène, il perdure encore aujourd'hui. Il s'appelle le parler en langue. Mais ce qui est sûr, c'est que symboliquement, l'esprit vient combler en fait la distance entre Dieu et les hommes. Grâce à l'esprit, il y a plus de di... Bon, je peux pas dire qu'il y a plus de distance, mais la distance est tellement moins grande. Et le Saint-Esprit, il donne la force, il donne le courage, il donne la clarté, il donne l'unité pour pouvoir prier tous comme un seul homme pour des choses importantes, des choses nouvelles. Et en fait, le Saint-Esprit, il inaugure vraiment une nouvelle ère. Donc l'ère de la foi vivante, personnelle, qui est portée par l'Esprit et pour l'époque, pas seulement par la loi. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas de Bible, il ne possédait que la Torah, qui correspond au Pentateuque chrétien. Donc Genèse, Exode, Lévitique. Bref, les cinq premiers livres. Donc là, cet épisode, c'est pourquoi se préparer à la Pentecôte. Tout ce que j'ai dit avant, c'était pour venir à ce point-là. Oui. Donc pourquoi se préparer à la Pentecôte? Parce que comme je vous ai dit, la Pentecôte, c'est la grande fête qui suit Pâques. Et en général, après Pâques, on a tous tendance à relâcher un peu. On a tous tendance à relâcher un peu et on arrive à la Pentecôte. Bon, entre très grosses griffes, on croit qu'on a vécu notre meilleure vie, on n'est pas du tout préparé. Du coup, la messe de la Pentecôte, elle passe comme une messe totalement normale. On arrive à l'église, on sort de l'église, on n'a pas l'impression qu'on a particulièrement reçu l'esprit. On se dit que le fait de parler en langue, c'est pour les grandes personnes. C'est quand même pour les grandes personnes qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais tout ça, c'est un peu des prétextes parce que ces grandes personnes, finalement, elles sont plus préparées que nous parce qu'elles ont eu plus de volonté à se préparer que nous. Enfin, c'est sûr, des petits détails comme ça que ça joue. Et parfois, c'est juste que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Parce que ceux qui ont déjà vu des personnes parler en langue dans la vraie vie savent que c'est assez spectaculaire, hein. C'est assez spectaculaire. Et souvent, on n'a juste pas envie. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais moi personnellement, je sais que pendant longtemps, parler en langue, c'était pas un truc que je désirais, hein. C'était vraiment pas un truc que je désirais. Déjà parce que je comprenais pas forcément ce qu'était le Saint-Esprit. Donc moi, en fait, j'avais l'impression de voir des personnes qui étaient absolument plus maîtresses, maîtres, bon, vraiment des personnes donc, voilà, qui n'étaient plus maîtres, maîtresses d'elles-mêmes, qui parlaient une langue qu'on ne comprenait pas, qu'elles-mêmes ne comprenaient pas, dire des choses, enfin, c'est assez particulier. Donc, vraiment, des fois, on n'est juste pas prêt. On n'est juste pas gamé, en fait. Et donc, pourquoi se préparer à la Pentecôte? Se préparer à la Pentecôte, en fait, c'est comme se rendre disponible pour quelque chose de plus grand que soi, qui est l'Esprit Saint. Donc, je pense que se préparer à la Pentecôte, en fait, c'est ouvrir son cœur à une transformation intérieure. Donc, on sait que l'Esprit Saint est souvent associé au vent, au feu, à l'inspiration, à cette nouvelle transition et tout. Et donc se préparer, c'est cultiver une attente et un désir du renouveau. Parce que oui, là, se préparer à la Pentecôte, c'est vraiment, bon, comme toutes les choses dans la foi, dans la démarche de la religion, etc., c'est des choses qui sont personnelles. Mais autant le carême, c'est un temps qui est instauré officiel pour tous, autant se préparer à la Pentecôte, ça ne relève que de vous seul. Et vous pourrez être en GIF, la seule personne à s'y préparer. Sachant que le carême, souvent, vous le faites avec d'autres personnes. Du coup, entre très grosses griffes, c'est plus facile parce que vous vous soutenez entre vous, etc. Mais là, ce désir de renouveau, c'est vraiment en GIF, vous, par rapport à ce que vous croyez, par rapport à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus, hein. Donc, c'est vraiment, ça ne relève vraiment que de vous. Ensuite, se préparer à la Pentecôte, c'est vraiment de renouer avec sa mission ou, je pourrais même dire, le sens de la vie. Parce que nous, en tant que chrétiens, on pense que notre vie, elle tourne vraiment autour de Dieu, hein. C'est Dieu, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit, le centre même de notre vie. Et c'est cette personne de la Sainte Trinité, c'est notre Père Céleste, qui donne du sens à notre vie. D'autant plus que, entre 13 grosses griffes, c'est lui seul qui sait pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, se préparer à la Pentecôte, c'est vraiment renouer avec sa mission. Notre mission de devenir les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, comme les apôtres, on peut recevoir clarté, énergie, confiance pour sortir en fait de ces enfermements. Parce que, contexte de la Pentecôte, comme je vous ai dit, les apôtres, ils étaient avec la Vierge Marie, ils étaient enfermés dans une petite maison, ils avaient peur. Ils avaient peur. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est remonté au ciel. Bref, Jésus n'est plus là. Et en fait, ils se retrouvaient un peu face à la... au défi de continuer par eux-mêmes et par leur propre force, ce que Jésus leur avait enseigné, ce que Jésus avait commencé avec eux. C'était pas évident, hein? C'était pas évident. Ils n'avaient pas envie de mourir comme Jésus. Ils avaient tout simplement peur. Ils avaient des doutes. Ils ont commencé à se demander, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Et c'est vraiment l'esprit qui, lorsqu'il est descendu sur eux, qui leur a permis du coup de sortir de cette maison et de commencer à parler en langue, de commencer à proclamer la parole de Dieu et son évangile. Donc, ça permet, enfin, se préparer à la Pentecôte, c'est vraiment aussi cette démarche-là, de sortir de ses peurs et de ses doutes, du fait que, ah, moi, j'ai pas envie de parler de religion avec mes camarades parce que ils sont pas chrétiens et que je veux pas leur imposer, blablabla. Bref, ce genre de petites questions qu'on peut se poser par rapport au fait d'assumer en fait totalement sa foi, sa religion, tout en acceptant totalement la foi et la religion des autres. Ensuite, il y a aussi le fait que se préparer à la Pentecôte, c'est passer de la foi héritée à la foi personnelle, habitée. Parce que à Pâques, on célèbre la résurrection du Christ. À l'Ascension, on célèbre l'absence visible du Christ. Et à la Pentecôte, on expérimente en fait sa présence invisible en nous. Donc c'était vraiment ce message-là que j'avais à vous faire passer. Surtout que ça fait 2 semaines que... Enfin, j'ai un jour de retard, mais c'est OK. Donc voilà, je tenais à faire sortir cet épisode au lendemain de la Pâque, parce que je trouve que c'est important de rester concentré en fait. C'est important de rester concentré. En tout cas, moi, ça m'a demandé un petit effort de préparer cet épisode, surtout que je voulais pas qu'il excède les 30 minutes pour qu'on puisse vraiment, vraiment, vraiment aller à l'essentiel. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, que vous aurez appris de nouvelles choses. Et moi, c'est toujours un plaisir pour moi de parler sur Soul for Soul, votre podcast chrétien, où on parle de religion, de spiritualité, mais aussi de la vie de façon générale. Je pense que dans le prochain épisode, on essaiera de parler de comment se préparer à la Pentecôte, parce que là, je vous ai dit pourquoi s'y préparer, qu'est-ce que la Pentecôte, mais je ne vous ai pas vraiment dit comment s'y préparer. Mais si vous préférez, on pourra le faire dans 1 semaine, dans 2 semaines, ou faire un épisode intermédiaire. Entre-temps, vous me direz, et moi je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, je vous souhaite de rester, malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde, de rester dans la joie du Christ ressuscité. Amen, et que Dieu vous bénisse.